Ce matin, Seigneur, nous voulons encore une fois ouvrir ta parole, la parcourir autour de ce thème sur l'amitié. Je voudrais te demander, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous conduises, chacun pour soi-même, à s'approprier ce qui lui revient dans sa part de nourriture de ce matin. Conduis-nous, Seigneur, dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit que qui est-ce qui, si quelqu'un a un ami, il va le regarder de loin en ne le parlant pas. Vous avez dit, non, ça se fait pas. Si on a des potes, eh ben, on a envie d'être avec eux, on a envie de s'entourer, on a envie d'être avec eux. Ce matin, je voulais partager autour de l'amitié chrétienne. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est, nous commençons l'année scolaire. L'année nouvelle va commencer, l'exercice 2015-2016 commence avec le break des vacances. Et en tant qu'église, j'aimerais que nous puissions avoir un ressort spirituel qui va porter notre manière de collaborer ensemble, notre manière de servir Dieu ensemble, notre manière de vivre ensemble en tant que frères et sœurs. Un ressort spirituel qui va pouvoir soutenir toutes nos initiatives, tout le travail que nous faisons ensemble. Et ce ressort, je pense que ce serait à trouver dans l'amitié chrétienne. Donc, peut-être que c'est un sujet qui vous paraît étrange parce que vous connaissez l'amitié. Tout le monde a un ami. Qui n'a pas d'amis ici? Personne. Qui a un ami ici? Qui a des amis? Quoi? Il y en a qui n'en ont pas du tout. Ah ouais, informez-moi parce que là, je commence à être un peu effrayé là. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Maurice n'en a pas. Bon, ben ça va. Il a sa femme. C'est son ami. L'amitié est un sujet qui est important, qui est intéressant. Dans la Bible, il y a énormément de choses à dire sur l'amitié. Je ne vais pas poursuivre la découverte biblique, faire une théologie biblique de l'amitié, parce que franchement, il y a énormément de choses à dire. Mais j'aimerais, comme je vous ai dit, canaliser cela vers l'interrelationnel entre nous. Et un ami est quelqu'un qui est peut-être le meilleur. L'amitié, c'est peut-être la meilleure chose qui peut arriver à un être humain. Une des meilleures choses, je ne dirais pas la meilleure, mais l'une des meilleures choses qui peut arriver à un être humain. On a tous besoin d'un ami. Vous savez que psychologiquement, les enfants qui ont un peu des difficultés relationnelles, on a maintenant dans certaines thérapies, on travaille l'idée que un enfant puisse avoir un ami secret avec qui il parle, avec qui il se confie, un ami secret. Vous savez que les gens qui sont parfois dans certains cas de pathologie même mentale, je pense à la schizophrénie, l'enjeu de la schizophrénie par exemple, c'est une amitié, une recherche d'une amitié avec quelqu'un. L'amitié est quelque chose de très important, où elle débouche sur une vie saine, où elle débouche sur une vie complètement morbide. Je ne vais pas m'étaler sur les dimensions psychologiques. Avoir un ami, c'est savoir quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un avec qui on peut tout partager. Quelqu'un qui est capable de nous comprendre. Là où tout le monde ne peut plus comprendre. Quand tout le monde s'enfuit, c'est celui qui reste encore. C'est celui qui va partager nos souffrances, qui va ramasser des coups à notre place. Celui qui va nous défendre. Celui qui va pleurer avec nous pendant que nous pleurons. Celui qui va sauter de joie avec nous quand nous sommes heureux. Un ami, c'est quelqu'un de très important. De très important pour un être humain. Dans la Bible, nous allons voir qu'on peut tout doucement cheminer vers une définition de ce que serait l'amitié. Et Vous savez que Dieu aussi a un élan amical à notre égard. Dieu veut être l'ami aussi des humains. Je vous invite à le regarder à travers un personnage, Exode chapitre 33. Nous allons lire du verset 9 au verset 11. Exode, livre de l'Ancien Testament, deuxième livre. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Regardez ça. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Dieu est un ami. Dieu a de l'amitié pour Moïse. Pourtant, qui est Moïse? C'est son serviteur. Son serviteur. Et le mot serviteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est au service de quelqu'un d'autre, qui se soumet, qui est sous les pieds, sous le commandement. Et Jésus va plus loin. Un serviteur, c'est un esclave. Il n'a pas de droit. Et pourtant, Dieu va parler avec Moïse, comme on parle avec un ami. Dieu a de l'amitié pour son serviteur, Moïse. Dieu a de l'amitié pour les hommes, en général. Mais ce n'est pas n'importe quel homme. Ce n'est pas à n'importe quelle condition que l'amitié de Dieu est offerte à un homme. Psaume 25, le verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Pas n'importe qui, pas n'importe comment. Dieu a de l'amitié pour ceux, pour les humains qui le craignent. Craindre ne veut pas dire avoir peur, ne pas être terrorisé. C'est pas ça veut dire. Craindre, ça veut dire avoir du respect, un respect profond. Craindre, ça veut dire avoir de la considération, avoir de la révérence. Craindre, c'est donner de l'importance à la personne. Tous ceux qui ont du respect profond pour Dieu, tous ceux qui obéissent à ses exigences, tous ceux qui sont pour Dieu, prêts à lui obéir, prêts à marcher dans ses voies, Dieu leur offre son amitié. Il leur offre son amitié. C'est le cas de Moïse, mais c'était aussi le cas d'Abraham. Abraham est considéré dans la Bible comme l'ami de Dieu, comme quelqu'un qui est très proche de Dieu. Et Dieu a visité Abraham, son ami, et ne lui a pas caché les projets qu'il avait avec notamment la ville de Sodome et de Gomorre. Vous remarquerez une chose, la suite de l'histoire est exactement la même avec Jésus-Christ. Dieu a de l'amitié pour Moïse, pour Abraham, etc., pour ses serviteurs. Mais regardez aussi, Jésus, c'est la même chose aussi. Jean chapitre 15, versets 13 à 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Copier-coller. La réalité avec Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est la même chose que Jésus fait dans le Nouveau Testament. Une amitié qui est offerte aux serviteurs. Jésus, lui aussi, comme son père, avec Abraham et Moïse, eh ben, il a de l'amitié pour ses serviteurs, pour ses disciples. Il ne les considère pas comme ses serviteurs, mais comme ses amis. Comme un peu Dieu avec Moïse, eh bien, Jésus partage tout avec ses serviteurs. Et peut-être, ce matin, s'arrêter juste sur la question, mais waouh, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'amitié chrétienne? Quel enseignement ce texte nous invite à voir à travers l'amitié de Dieu? L'amitié de Dieu est un choix que Dieu fait. Dieu fait le choix de faire entrer dans son intimité des hommes, des femmes qui croient en lui et qui le respectent. C'est plus que de la sympathie ou de la camaraderie ou de l'affinité. C'est plus que ça. C'est une amitié qui s'exprime à travers le dialogue, c'est-à-dire le droit de pouvoir se parler face à face. Tu me parles, je te parle. Tu exprimes le fond de ta pensée, tu exprimes ce qui se passe en toi et tu en parles et l'autre parle et vous échangez. Qui s'exprime à travers les confidences. Dieu va dire, va donner des confidences à Abraham, à Moïse. Il va dire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il pense. Qui s'exprime par le partage des projets. Je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Les espoirs, j'espère pouvoir atteindre tel objectif. Je rêve de ceci, de cela. À travers des peines, je souffre pour ceci, je souffre pour cela. Tu sais, telle personne, elle m'a fait de la peine. Tu sais, telle situation, ça me fait de la peine. Je partage telle souffrance, regarde dans mon corps, je m'inquiète pour ma santé, etc. Les joies. Waouh, j'ai réussi, tu sais, j'ai eu ce que je désirais, etc. L'amitié de Dieu et tout cela, c'est le partage de la vie, de l'événement de la vie. C'est l'intimité, c'est la collaboration, c'est la coopération. L'amitié de Dieu, c'est cela. L'amitié qui se manifeste par l'affection, l'amour, la considération pour l'autre. Dieu choisit d'aimer, les hommes qui le craignent, les croyants. Il choisit de les aimer d'une manière amicale, dans un rapport respectueux et sain. L'amitié, vous remarquerez que ça va plus loin encore. Avec Jésus, l'amitié devient le support à partir duquel l'amour se fait don de soi. Christ meurt à la croix et dit, il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer, de donner sa vie. Pour qui? Pour ses amis. Je ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un si je n'ai pas un élan amical à son égard. Essayez de faire quelque chose pour quelqu'un que vous n'aimez pas du tout. Ça va marcher, vous croyez? Vous pensez? Ou vous le ferez avec des pieds de plomb? Parce que, non. Si j'aime pas, waouh! Si je n'aime pas, qu'il vit sa vie ailleurs. Mais quand j'ai un élan amical, quand j'anticipe de l'amitié à l'égard des gens, alors je fais plein de choses pour eux. Je les aime. Je suis prêt à aller jusqu'à donner la vie. C'est ce que Jésus a fait. Et mes amis, c'est loin d'être l'amitié comme nous vivons dans notre monde, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? L'amitié que nous vivons dans notre monde, encore notre monde aujourd'hui, est une amitié qui fluctue. Ami aujourd'hui, pas ami demain, puis ami encore, puis ennemi, puis ami, puis rien du tout, ou quelque chose, et puis, ou de loin, ou de près, etc. L'amitié aujourd'hui fluctue au gré des intérêts. J'ai intérêt, tu es très ami avec moi. J'ai plus intérêt, garde tes distances, je veux pas de toi. L'amitié aujourd'hui meurt facilement avec la distance. L'amitié aujourd'hui, elle est là juste pour mon plaisir à moi, mais pas celui de l'autre. Tant que tu m'apportes tout ce qu'il me faut, eh ben, t'es mon ami. Le jour où tu ne m'apportes plus et que c'est moi qui dois te porter. Non, il n'y a plus d'amitié. Non. Considérez les gens du monde aujourd'hui. L'amitié, les vrais amis. Moi, je suis parfois effrayé aujourd'hui par la familiarité. Vous voulez être familier avec quelqu'un? Il commence à vous insulter. Il commence à avoir des propos impolis à votre égard. Il commence à parler n'importe comment. Parce que c'est votre ami, soi-disant. On raconte cette blague avec un chef de l'État. Je ne citerai pas le nom de ce chef d'État-là. Parce que vous allez encore rigoler plus. Donc je ne cite pas son nom. C'est quand même un personnage assez original. Bon, enfin, bref, ce personnage aimait bien jouer au jeu des dames. Et donc, il invite un gars qui sait bien jouer aux dames. Il dit, allez, viens, je connais un gars, puis, oui, allez, amenez-le. On amène le gars, il s'assoit avec le président de la République et se met à jouer aux dames. Et puis le président voit qu'il le bat facilement. Donc, il se rend compte que le type, il est effrayé, impressionné par la stature du président. Et donc, il dit alors le président dit, mais écoutez, monsieur, mettez-vous à l'aise parce que je veux avoir un adversaire quand même corsé, parce que franchement, jouer comme ça, c'est pas jouer, quoi. Vous savez ce que le gars fait? Il enlève sa veste, il enlève sa chemise, il reste en cinglé, il s'assoit, il dit, allez, viens ma chèvre, tu vas voir comment je vais te faire, toi. T'es une poule mouillée. Il se met à sortir toutes les grossièretés auxquelles il est habitué quand il joue dans la cité. Voyez? Parce que dans la cité, dans la rue, ils ont leur façon à eux de jouer aux dames, ils s'insultent, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'ils gagnent leur match. Eh ben, il refait ça avec le président. Vous devinez ce qui s'est passé? Au bout d'un certain temps, monsieur le président dit, je vous rappelle quand même que je suis le président de la République. Bon, excusez-moi, monsieur le président. Il s'est remis à jouer normalement et il a été battu tellement que le président l'a chassé. Il a dit, allez, va-t'en. Ça ne servit à rien de jouer avec toi. L'amitié aujourd'hui, c'est comme ça. Dès qu'on est pote, dès qu'on est familier, allez, on commence à lâcher n'importe quoi. On commence à avoir n'importe quel type de rapport. Mais Dieu nous respecte. Il nous respecte profondément dans cette relation amicale. L'amitié d'aujourd'hui, mes amis, est une amitié qui peut terminer par des drames. Combien n'y a-t-il pas des amis qui ont trahi d'autres amis? Psaume 55, vous verrez que c'est une réalité qui est aussi biblique. Psaume 55, 13, 14 et 15, c'est toi que j'estimais mon égal. C'est David qui le dit, hein. Il a été trahi. C'est moi, c'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Vous voyez, l'amitié, il y a de la confidence. Ensemble, nous vivions une douce intimité. Dans l'amitié, il y a l'intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Voilà. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Les deux versets précédents. En réalité, c'est David qui se plaint. Qui se plaint d'avoir été trahi par un ami. Et vous voyez, cet ami-là, c'était celui qu'il estimait comme étant son égal. C'était l'autre. Vous voyez, quand on est très amis, on se considère parfois comme des jumeaux. On est comme des jumeaux, ça passe trop bien entre nous, on se comprend, ouais. On regarde des films, c'est la même chose, on pense la même chose. Enfin, bref, il y a une alchimie incroyable, quoi. Paf! Le gars, il a un problème, là. Son confident, ouais, il lui disait plein de trucs. Oh, purée, quoi. Il est parti avec plein de secrets de moi. Il va pas le lâcher en public? Ouh. Ensemble, nous vivions une douce intimité. Une intimité, quoi. Ça veut dire que j'étais comme je suis en vrai, avec mon ami. Je me lâchais. J'étais comme je suis vraiment, vraiment, vraiment. Et comme je ne veux pas que tout le monde sache que je suis. Et même ça a été trahi. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Vous imaginez? Ici, c'est encore plus dur parce que c'est quelqu'un avec lequel il partageait la même foi en Dieu. Ça existe. C'est un drame. Avez-vous déjà expérimenté la trahison d'un ami? Avez-vous déjà fait ça? Dites oui, ceux qui l'ont déjà expérimenté. Vous avez peur, hein? Alors ça va. Je le garde. Moi, j'ai expérimenté ça. La trahison d'un ami. Ça vous laisse triste pendant longtemps. Ça vous donne un chagrin incroyable. Vous sentez vide. Vous sentez que vous êtes rien. C'est comme si on vous a déshabillé publiquement. Ça vous laisse sans sommeil la nuit. La nuit, vous dormez, mais vous ne dormez pas. Vous vous réveillez en sursaut en disant, purée, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? La trahison d'un ami, ça vous tue à petit feu. C'est dire à quel point l'amitié est importante. Mais Dieu, dans son amitié, est fidèle. L'amitié de Dieu est solide. Elle est éternelle. Proverbe 17, un très beau texte que beaucoup de gens connaissent, n'est-ce pas? L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Ça, c'est le projet de Dieu. Ça, c'est l'amitié de Dieu. L'autre verset, 27, 6, regardez ça. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Il s'est fait notre frère dans notre malheur. Dans la voie dans laquelle nous étions en train de partir pour la condamnation, il s'est fait notre frère. Frère qui a reçu des blessures, qui a été blessé à la croix pour témoigner de l'amitié de Dieu, de la dispositif que Dieu met en face pour nous. Alors, mes amis, j'ai parlé de l'amitié de Dieu parce que je voudrais voir à travers ces textes que nous venons de lire comme un chemin pour nous aider à voir c'est quoi l'amitié. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans l'amitié? Quelle serait la vraie amitié entre nous, frères et sœurs, entre chrétiens? Je parle de l'amitié chrétienne. Dieu nous dessine les contours de cette amitié. Nous avons des éléments pour comprendre comment développer une attitude amicale les uns envers les autres. L'amitié doit se fonder sur le respect mutuel, sur l'attitude de don de soi, sur la confiance, sur la confidence et sur l'intimité. Je dois être prêt à ouvrir ma porte et la porte de mon cœur, mais je dois pouvoir être sûr qu'en l'ouvrant, l'autre en face de moi est digne de confiance. L'amitié doit être prêt à aimer l'ami d'une manière fidèle, c'est-à-dire dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Quand il est rejeté de tous ou quand il est au sommet de sa gloire. Comme avec Dieu, Dieu qui vient nous rejoindre dans notre bassesse humaine. Le vrai ami ne considère pas son niveau par rapport à nous. À l'autre. Il se dit pas, voilà, moi je suis meilleur que toi, je suis plus fort que toi, ah, t'as pas le droit d'être mon ami. Il regarde pas ce type de rapport-là. Je suis plus intelligent que toi, je suis plus beau que toi, alors dans l'amitié je m'impose, ou bien alors je suis pas ton ami. Non, l'amitié ne tient pas compte de ça, ne tient pas compte des conditions. C'est un élan du cœur. C'est le cœur qui veut, qui aime l'autre tel qu'il est. Comme Dieu qui a aimé ses serviteurs, qui offre l'amitié à ses serviteurs, aux gens sur qui il a le droit de vie et de mort. Mais il les aime et il les met au même niveau que lui pour parler face à face avec lui. Incroyable. Des exemples d'amitié nous avons là dans la Bible. Et un des exemples les plus remarquables, vous le connaissez, c'est l'amitié entre un certain David, qui va devenir le roi plus tard, et un certain Jonathan. C'est pas mon fils, hein. Je vous rassure tout de suite, hein. Quoique, peut-être qu'un jour il sera fils de roi, mais quoique, bon, ne rêvons pas. Je suis déjà trop vieux pour être roi, donc, enfin bon, bref. Allez. On peut rêver à haute voix, n'est-ce pas? Bon. Donc, on revient à la réalité. Alors, David et Jonathan sont des amis. dans la Bible. Jonathan, c'est le fils du roi Saul. Et moi, ce qui me frappe dans le texte qui en parle, c'est qu'ils disent, à partir du moment où David s'est rencontré avec Jonathan, son âme s'est attachée à celle de Jonathan. Waouh ! Son âme, quoi. L'âme s'est attachée. Il existe des amitiés aussi fortes. C'est à un point tel que lorsque Jonathan va mourir avec son père à la guerre, David va plus pleurer son ami Jonathan que le roi. Il va plus pleurer son ami, parce que c'était son ami. Il dit « mon frère, mon frère ». Voyez, quand l'amitié est tellement grande et tellement forte, ça devient de la fraternité. Alors, je crois que l'ami est quelqu'un qui est important dans nos vies. Et nous avons besoin, nous tous ici, dans l'Église, pour travailler ensemble à l'avancement du royaume de Dieu cette année, nous avons besoin de développer l'amitié les uns à l'égard des autres. Être amis. Nous considérer comme des amis et vivre dans l'amitié. Parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir travailler mieux. Parce que dans l'amitié, nous travaillerons mieux. Nous travaillerons dans la joie, dans la complicité, dans l'écoute, dans le pardon mutuel, dans le vrai. Dans le vrai. Dans l'amitié, nous allons pouvoir nous concerter avec joie, sans hypocrisie, sans arrière-pensée, sans fioriture. Alors, je vais juste clôturer mon exhortation avec ce texte de Pierre. Je vais souligner deux, trois petites choses là-dedans. De Pierre, au chapitre 3 jusqu'au verset 10, sa divine puissance, la divine puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. Donc, je rends vite compte de ça. Dieu, en nous sauvant Jésus-Christ, nous donne tout ce qu'il nous faut. Nous avons l'équipement complet. Un peu comme quand on vous livre une voiture, eh ben, elle est complète, quoi. Elle a tout ce qu'il faut, le GPS et machin comme ça. On vous donne même un document de conformité pour vous dire, voilà, avec ça, vous avez la preuve de tout ce qu'il y a dans la voiture. On a tout au complet. Et ces choses que nous avons déjà nous permettent de pouvoir vivre notre vie avec Dieu correctement. Et la piété, c'est-à-dire tout ce qui concerne notre engagement en tant que chrétien, notre façon de prier, notre façon de lire la Bible, etc., etc. Tout ça ensemble, ça, nous avons tout ça déjà. Mais, au verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts, là c'est notre part à nous, les croyants, pour joindre à votre foi la vertu, je vais pas commencer à développer chaque truc, hein, vous allez sûrement comprendre où je veux en venir. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Dieu attend de nous que notre foi soit une foi pratique. De la foi à l'amour, il y a des tas de choses que nous devons apprendre à développer. Et vous remarquerez une chose, la passerelle, le pont qui qui nous permettra de vivre pleinement l'amour, c'est l'amitié fraternelle. C'est l'amitié. Lorsque on apprend à avoir un élan amical avec ses frères, on est sur la route du vrai amour. Et vous avez remarqué, ces choses-là, si elles sont développées en nous, et c'est ça la portée du verset 8, ces choses, si elles sont développées en nous, elles vont nous permettre de pouvoir progresser dans la connaissance intime avec Dieu. Elle va nous permettre de grandir aussi dans notre façon de voir Dieu, dans notre façon de vivre notre vie sainte. Et puis, dernier verset, au verset 10, cela va nous permettre de ne pas faire des faux pas au niveau spirituel, de ne pas nous tromper, de ne pas faire des erreurs, de ne pas tomber dans notre foi. Lorsque nous avons ces choses-là. Voyez, plus qu'un simple désir, en disant, une exhortation en disant, l'amitié c'est quelque chose d'important, plus qu'un simple désir, l'amitié est une chose qui est importante à développer entre nous, parce que grâce à l'amitié, nous avons l'avantage à tout point de vue. Nous sommes gagnants dans nos rapports, puisqu'il y a la paix entre nous. Nous sommes gagnants dans l'Église, puisque nous travaillons dans la joie, dans la paix, etc. Nous sommes gagnants dans notre être intérieur, puisque nous dormons tranquillos. Chez nous, à la maison, on peinard. On se lève le matin, ouais, tout va bien, tu penses à un pote, tu souris. Et pas tu penses à un pote, tout d'un coup, le sourire s'en va. Que cela nous aide à pouvoir nous positionner. Afin que cette année soit une année d'amitié, une année où nous allons profiter ensemble. Bien sûr, on va souffrir, on va travailler, on va faire face à beaucoup de défis. Mais si on peut le faire avec joie, avec sourire, avec complicité, alors seulement, à ce moment-là, nous pouvons aller encore plus de l'avant. En tout cas, que Dieu nous aide à véritablement développer cette dimension-là pour nous dans l'Église. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. C'est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Aide-nous à vivre selon ta parole et à saisir tes exigences et à nous mettre en ligne avec ça. Merci pour la part que chacun a pris à travers ce sujet. Nous savons que nous ne mangeons pas de la même façon une nourriture. Seigneur, merci de prendre les choses selon comment toi tu sais qu'il est. Merci de nous conduire encore durant cette année dans cette église. Au nom de Jésus. Amen.